Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Bugat pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est de zèle.
Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de nouveau de vous retrouver pour une nouvelle émission de Délivrez-vous pour ces deux ailes. Et là, je vous emmène dans une région qui m'est particulièrement chère. C'est l'Ariège, les Pyrénées, la Haute-Ariège, dirons-nous. En tout cas, là où se situe l'action du livre aujourd'hui. Et je suis ravie de recevoir son auteur. Vous verrez là, l'accent de ce cher sud-ouest, cet accent chantant et plein de soleil dont nous allons avoir bien besoin durant ces premiers jours d'automne. Quoique, en ce moment, il ne fait pas trop mauvais. Eh bien, c'est un livre haletant, avec beaucoup d'émotions, assez bouleversant. On va se rendre compte que crescendo, évidemment, la tension va monter face à une héroïne fort sympathique. En tout cas, il fallait toute la verve, tout le talent, tout ce côté bouleversant et ce grand narrateur qu'est mon invité aujourd'hui. Bonjour Georges-Patrick Glaise. Merci d'avoir accepté mon invitation pour Délivrez-vous pour ces deux ailes, pour votre dernier ouvrage, La montagne des autres, aux éditions Kalman Lévy. Alors, vous êtes un grand auteur de la région, vous narrez notre région avec toujours cette belle région de l'Ariège avec autant de plaisir. Parlez-nous un petit peu de vous. Qui est Georges-Patrick Glaise?
Alors, de mon métier, j'étais professeur d'histoire. Hein,
oui.
Je suis agrégé d'histoire, exactement.
Oui.
Et je fais une carrière de professeur en lycée et en BTS, c'est très, très classique.
Oui.
Et il y a 20 ans, j'ai eu la chance, en envoyant un texte trop retenu par les éditions Albin Michel.
Oui.
Je suis rentré chez Albin Michel, je suis resté 10 ans. Et au bout de 10 ans, je suis passé chez Kalman Lévy. Et j'écris des romans au rythme d'un roman par an, des romans d'histoire, de terroir, des romans qui sont devant toujours les Pyrénées, l'Ariège.
Tout à fait.
C'est une région que je connais bien. Et qui vous conduit à la découverte d'un pays qui est un peu oublié, un peu loin du froid parisien, peut-être.
Alors, vous êtes également membre de l'Académie des Arts.
Exact, je suis membre de l'Académie des Sciences et des Arts du Languedoc.
Voilà, du Languedoc, absolument. Alors là, effectivement, donc, c'est un roman, La montagne des autres, déjà tout un titre, on se dit, ah, La montagne des autres, pourquoi? Nous allons à la rencontre d'une héroïne qui est Laura Farge, qui décide pour sa thèse et eh bien de se réfugier dans une maison assez isolée d'une de ses tantes dans un hameau dans la Haute-Ariège afin d'être tranquille, de ne pas être embêtée. Le souci, c'est que ça ne va pas se passer du tout comme elle le pense parce que les habitants du hameau vont la voir arriver d'un œil plus ou moins féroce. Enfin, ils vont garder une certaine distance. Ils vont pas l'accueillir alors que normalement, bon, les Ariégeois, c'est vrai, sont un petit peu froids face aux étrangers, mais elle va recevoir quand même un accueil assez hostile.
Oui, tout à fait, elle recevra un accueil hostile parce qu'elle n'est pas du tout la bienvenue.
Oui.
Elle est l'empêcheuse de tourner en rond, c'est l'étrangère.
Voilà.
Et donc, on va faire tout ce qu'on peut pour la faire partir. Notamment, on va pratiquer sur elle ce qu'on appelle chez nous un puce-tête.
Oui.
C'est un véritable chahut nocturne.
Tout à fait.
Dans le but de l'effrayer. Mm-hmm. Voilà.
Alors, le puce-tête, en fait, on va l'expliquer pour nos auditrices auditeurs. C'est, on attache une ficelle au bout d'une bouteille, on attache tout cela à une porte et on frappe fort en tirant sur la ficelle en pleine nuit à la porte. Et ça fait un bruit d'enfer
oui,
à l'intérieur
ça,
de la maison.
Ça prend pas trop de forme également. Bon. Disons que le but c'est d'effrayer, de faire peur hein, à celui qui se vit. Et souvent on enferme chez lui, on le pousse par les cadres, pas sortir, etc. C'est assez angoissant un peu, disons.
Voilà. Alors, elle va trouver une alliée. Alors, il y a également dans le pays, et c'est bien vu parce que ça a été le cas et c'est toujours le cas dans pas mal de vallées ariégeoises, une Hollandaise qui est là depuis pas mal de temps et qui va quand même la soutenir parce qu'elle aussi, elle a subi les affres de l'étranger, comme on dit dans l'Ariège. Et ça va être la bienvenue quand même, cette aide précieuse de cette Hollandaise.
On a sûrement la louve.
La louve, oui. Tout à fait.
La louve,
oui.
Parce qu'elle s'est mise dans la tête avec son mari qui est décédé de d'ouvrir un parc animalier pour des loups. Et évidemment, dans un pays d'élevage, c'est très très mal vu.
Et
donc, cette pauvre fille, elle avait perdu la hostilité des gens du pays, mais elle a persisté, elle a tenu bon et s'est installée. Alors, elle est un peu dans la filiation de ces marginaux de ces hippies
qui
sont venus dans les années 70.
Tout à fait.
Et dont beaucoup d'ailleurs sont repartis.
Oui.
Mais quelques-uns sont restés, sont accrochés à la terre et ont réussi à refaire vivre cette montagne.
C'est vrai. Alors, la louve, ça m'a fait penser à la louve Qatar, à Aliénor d'Aquitaine.
Oui, il y a un peu de ça, c'est vrai. Il y a un peu de ça. C'est une femme typique. Elle est fine, est intelligente.
Oui,
mais elle est blessée également. Oui. Elle a toute une sensibilité en elle qui fait qu'elle est très active au malheur des autres.
Tout à fait. Alors, notre héroïne, Laura, va se dire, mais enfin, que se passe-t-il? Que se passe-t-il dans cet otariège? On ne peut pas en dire trop, parce que comme c'est finalement, c'est un thriller, je dirais, régional, hein, il va s'y passer pas mal de choses, un polar, tout à fait. Donc, on va tourner autour des choses. Mais elle va se demander ce qu'il se passe et pourquoi sa venue est si mal vue. Et puis, finalement, elle va se dire, mais cette montagne, ce hameau, ces gens... Quel secret regorge-t-il? Que cache-t-il?
Oui, alors il y a des secrets qui sont enfouis très profondément dans la vallée, qui sont liés à la politique, je dirais, économique de la vallée.
Oui.
Et c'est le sujet d'ailleurs du roman. Qu'est-ce qu'on veut faire de la montagne? Est-ce que la montagne doit rester une réserve pour des Gaulois irréductibles? Ou au contraire, est-ce qu'elle doit sourire sur le reste du monde, pour progrès la modernité et faire vivre en fin de compte les hommes de la vallée? C'est tout le thème du roman. Mm-hmm. Et ce thème-là est au cœur même du secret du livre.
Tout à fait. Alors, justement, que la montagne, comment doit-on la vivre? Comment peut-on la vivre? Comment elle doit se vivre aussi? Au-delà du polar, je trouve qu'il y a presque une question environnementale.
Oui, une question environnementale, c'est vrai. L'écologie, au sens noble du terme, est au cœur même du roman, car cette montagne, elle est humaine, elle est porteuse de tradition, c'est un passé d'une charge émotive, mais en même temps, bon, elle veut survivre à elle-même, et cette survie, ça passe par la reconfiguration de son environnement, de la remise en cause, en fin de compte, de ce qu'elle est elle-même.
Tout à fait. Alors c'est vrai que c'est une la Haute Ariège. Bon, il y a des vallées assez reculées. C'est un petit hameau, j'y recrue d'une vallée assez encaissée. Est-ce qu'on pourrait dire, Georges Patrick Gless, que les gens de ce côté reculent, pourtant, ils aient la modernité quand même malgré tout. On est tendance un petit peu entre guillemets arriérés, c'est-à-dire ne voient pas forcément le plus loin que le bout de leur nez et ont des idées assez, comment dirais-je, restrictives, assez obtus.
Je ne dirais pas qu'ils sont arriérés, je dirais qu'ils sont sur le reculoir et sur la méfiance.
Oui. Hein?
Vous savez, en Ariège, quand on vous demande quelque chose, le premier mot qu'on vous dit, c'est d'abord non.
Oui.
Et après, on discute.
Oui, c'est vrai.
C'est un peu comme ça. Donc, ils sont sur le reculoir, ils se méfient, et ça, c'est dû au fait que ce département, c'est vrai, a été très éloigné du pouvoir parisien, et il n'a pas beaucoup profité des démanes, en fin de compte, de la gouvernance. Et donc, il a compté que sur lui-même. C'est un département où les liens sont encore très, très puissants entre les hommes. On dit de l'Ariège que c'est la Corse sans même les morts. C'est vrai. Et donc, il y a cette dimension humaine qui lie les hommes les uns aux autres par des réseaux. Et donc, qui est lié au fait que ce département est un peu oublié, il reste un peu en marge, un peu lointain, en fin de compte.
Alors, oublié, je ne sais pas si c'est oublié, mais en tout cas, c'est vrai que pour y aller, il faut avoir des bonnes raisons, c'est-à-dire soit familiales, soit aimer la nature, soit aimer le côté sauvage. Parce que l'avantage de cette région, c'est que ça gardait une belle authenticité.
Ah, tout à fait. On retrouve des choses parfaitement authentiques, et au niveau gastronomique, pareil, au niveau des produits du terroir également, il y a vraiment un savoir-faire, une tradition qui sont fortes, et qui vous enchantent. D'ailleurs, beaucoup de Parisiens, de Toulousains ont acquis des résidences secondaires dans la région, et la moindre grange aujourd'hui s'arrache à prix d'or.
Complètement, absolument. Absolument. Pour en rantaine, on peut le dire aux auditrices, auditeurs, dans les vallées que je connais bien, que ce soit la vallée de la Bellongue ou la vallée de Bethmale, ou même en allant vers Saint-Tin, hein, que vous connaissez peut-être, ce sont des granges entières qui ont été rénovées, retapées. Et il y a même des Toulousains et dans un des villages qui ont quitté Toulouse pour venir habiter et racheter des maisons. Parce que finalement, le télétravail, on se rend compte que, vous voyez, le Covid est passé aussi par là, même en Ariège. Alors, notre héroïne, on le disait, elle prépare une thèse, hein, c'est une elle est encore étudiante, même si elle travaille déjà.
Elle est enseignante.
Voilà, elle est enseignante, mais elle prépare sa thèse de fin d'études, hein, comme beaucoup d'enseignants. Moi, ce que j'ai aimé, c'est ce personnage, c'est que je l'ai trouvé très ouvert, très libre, et en même temps, voulant un petit peu s'isoler pour travailler. Bon, ça va être un peu compliqué, c'est pas forcément ce qu'elle attendait, mais j'ai trouvé que c'était une jeune fille des temps modernes, mais malgré tout attachée aux traditions aussi.
Oui, elle est moderne parce qu'elle a 30 ans.
Voilà.
Hein. Elle est jeune enseignante, elle débute dans la vie. Mmh. Elle est professeure en région parisienne.
Oui.
Elle est d'origine corrézienne. Et ça, c'était un clin d'œil à ma femme qui est corrézienne, disons.
Oui.
Et elle est venue s'installer dans les Pyrénées pour boucler sa thèse.
Oui.
Parce qu'elle a besoin de 2 mois de tranquillité, de ne pas être dérangée pour arriver à finir la correction.
Mmh.
Alors, à vrai dire, c'est le côté autobiographique, en fait, compte de mon roman, parce que mon fils,
oui,
histoire lui aussi, et il termine actuellement sa thèse, il a cette configuration-là.
D'accord.
Alors, je fais une transfiguration, en fin de compte, l'un par rapport à l'autre.
Oui, bah oui, bah écoutez, c'est très bien. Moi, ce que j'aime aussi dans vos romans, dans vos histoires, c'est que il y a toujours une palanquée de personnages toujours plus ou moins attachants ou inquiétants. Là, comme c'est un polar, bien évidemment, il y a toujours ce côté suspense et on recherche entre le doute et la vérité. Est-ce que vous vous attachez parfois à des gens que vous connaissez pour décrire vos personnages? Parce que parfois, c'est criant de vérité.
Alors, ils existent tous. Je confesse, ils existent tous. Parfois, avec 2 ou 3 personnages, j'en suis un seul. Ça,
oui,
c'est là,
ouais,
bien sûr.
Ouais.
Mais ils ont tous un fond de vérité.
Mm-hmm.
Ils sont tous authentiques. Mm-hmm. Parce que je les ai rencontrés, je les ai croisés.
Oui.
Bon, et des fois, ils sont assez pittoresques pour se suffire à eux-mêmes.
Mm-hmm.
Et à l'effet, ils crevaient l'écran, littéralement. Bon,
oui, tout à fait.
Ils ont cette dimension humaine qui est cette authenticité.
L'isolement ou cette vallée de Haute-Ariège favorise, je trouve, la description de personnages hauts en couleur, avec de fortes personnalités entre les dialogues, la façon de faire, d'agir. Je trouve que ça décuple ces personnalités de haute volée, de haut en couleur, je trouve.
Oui, ils sont rudes.
Mm-hmm.
Et les petits détails que je cite sont exacts. L'histoire du fil de fer qui part à la route, je me suis moi-même heurté.
Ah oui.
J'ai connu ce genre de choses en faisant des balades, des randonnées. On n'est pas toujours forcément le bienvenu, on vous regarde de travers, même si vous avez un accent ariégeois.
Oui, même si vous avez un accent ariégeois. Alors, ce qui est bien fait aussi dans ce roman, c'est que Laura, elle arrive, on le disait, pour préparer sa thèse, pour être au calme, tranquille. Elle se dit là, au fin fond du monde, au bout du monde, au bout de la France, je serai tranquille. Et finalement, c'est pas le cas, on l'expliquait. Mais ce qui est curieux, c'est que elle fait de mal à personne. C'est-à-dire qu'en fait, c'est simplement le fait qu'elle arrive et qu'on la regarde de travers qui déclenche les choses. Parce qu'elle, elle ne déclenche rien.
Elle est simplement là.
Voilà.
C'est sa présence qui met le feu aux poudres.
Ah oui, c'est ça qui est incroyable.
Ces gens-là ont quelque chose à cacher.
Oui, oui. Elle dérange alors qu'elle elle n'est pas censée chercher quoi que ce soit, qui que ce soit. Elle ne connaît pas le secret. Et alors, elle va être embringuée là-dedans, finalement, malgré elle,
et elle va se trouver prise dans un engrenage qui va la pousser à aller de l'avant, à savoir, parce qu'elle est curieuse.
Oui, oui, c'est vrai.
Elle est un peu curieuse, bon, et elle veut savoir. Et elle met le doigt dans un engrenage, ce qu'elle découvre, c'est absolument hallucinant.
Oui.
C'est que c'est une histoire parmi d'autres,
oui,
mais elle n'est pas la première à avoir dérangé. Et derrière, il y a des cadavres dans les placards.
Oui, ça, il y en a certains, oui, ça, on ne peut pas dire le contraire.
Il y en a, et tous les morts ne sont pas morts. Pas comme ça, pas à Paris d'Infertance. Certains ont malencontreusement glissé d'une falaise.
Oui, il y en a qui sont... Il y a quand même des gens maladroits, hein, faut le dire qui est.
Il y a des gens maladroits, en effet. Bon, c'est comme ça qu'on les considère. Je ne fais que retranscrire des choses qui ont pu exister.
Oui, oui. Eh bien écoutez, j'espère que ce qui ne sera pas maladroit, c'est la petite pause musicale que nous allons faire. Et nous nous retrouvons tout de suite après.
Comme un gros trésor. Toi tu montes au pass, eux ils montent au pas. Ce n'est pas l'Ardèche, non, tu connais pas. Pourtant je t'assure, sûr qu'il y a un grand A. A comme l'Ariège, A comme Ariégeois. Lève ton drapeau, chante tes couleurs, au vu des montagnes qui sont ton bonheur. Car les gars du Nord aiment ton accent, c'est parce que ça monte et puis ça descend. Chante ces cantos la main sur le cœur, Ariège, mon pays, rien ne te fait peur. Car il n'y a pas plus fier que d'être Ariégeois. Chante-le bien fort et chante en patois. Nous on les aime bien, eux ils nous adorent. Pour nos champignons et nos Pyrénées, nous pour le travail c'est juste à côté. On est espantés de voir que ça pègue dans nos expressions là-haut ils rouméguent. De ne pas comprendre la moitié des mots, on dit pas qu'est-ce que c'est, on dit qu'ils accordent. Lève ton drapeau, chante tes couleurs, au vu des montagnes qui sont ton bonheur. Car les gars du Nord aiment ton accent, c'est parce que ça monte et puis ça descend. Chante ces cantos la main sur le cœur, Ariège mon pays, rien ne te fait peur. Car il n'y a pas plus fier que d'être ariégeois. Chante-le bien fort et chante en patois. Son panneau tu klaxonneras comme une sirène pour dire Ariégeois. Tu verras ensuite le panorama qui est magnifique, qui laisse sans voix. Car si tu t'exiles un peu trop longtemps, loin de tes verdures, loin de ton accent, tu verras alors que les bons côtés, tu verras l'Ariège, ça va te manquer. Lève ton drapeau, chante tes couleurs, au vu des montagnes qui sont ton bonheur. Car les gars du Nord aiment ton accent, c'est parce que ça monte et puis ça descend. Chante ces cantos la main sur le cœur, Ariège mon pays, rien ne te fait peur. Car il n'y a pas plus fier que d'être ariégeois. Chante-le bien fort et chante en patois. Chante ces cantos la main sur le cœur, Ariège mon pays, rien ne te fait peur. Car il n'y a pas plus fier que d'être ariégeois. Chante-le bien fort.
Nous nous retrouvons sur l'émission Délivrez-vous pour ces deux ailes avec Georges Patrick Glaise pour son dernier roman La montagne des autres aux éditions Calman Lévy. Alors on parlait justement de ces cadavres dans les placards, de ces gens fort maladroits qui tombent des falaises, à qui il arrive des tas de choses, mais on se rend compte aussi que il y a des choses qui remontent à très loin, il y a des réminiscences assez lointaines.
Oui, dans le pays, on a de la mémoire vivace. Et on n'oublie rien. On le met à la caisse départ avec un terre composé. Hein. Et c'est vrai que j'ai des rancœurs qui sont puissantes, des haines qui sont hyper dures, et que l'on a cultivées soigneusement de génération en génération. Mmh. Et elle va, petit à petit, Laura, ces éléments au jour, et c'est assez angoissant, parce qu'elle ne sait plus sur qui compter. Qui va être son allié, mais il va trouver des alliés quand même dans ce contexte entre à la fois la Louve d'une part et puis Régis qui est un personnage un peu étrange qui s'est réfugié là parce que bon il est arrivé comme dans toute société pas complètement, il a quand même du pays quand même un peu. Et il est rustique et deux vont être ses alliés dans la découverte des secrets qui peignent dans cette vallée.
Oui, mais elle va quand même se méfier. Hein. Elle va découvrir ses alliés au fur et à mesure des choses. Ça ne va pas être subi. Ça va être quelque chose qui va être progressif au fur et à mesure du temps.
C'est très progressif, petit à petit. Et puis, les choses, ça s'engrange, les unes les autres, ça s'entraîne. Je veux dire, et le mystère s'épaissit.
Oui.
Et elle va d'avant jusqu'à ce qu'elle découvre le poteau rose, si je puis dire, à l'intérieur même de la maison
où elle a trouvé refuge de cette tente. Voilà. De cette tente.
Et là, c'est assez prenant parce que ce qu'elle découvre, elle ne s'attendait absolument pas à trouver quelque chose comme ça.
Bah non. Alors je me
on
suis.
On dira pas.
Non, on dira rien du tout. Je me suis posé la question aussi du fait qu'elle a comme allié la Louve, hein, cette Hollandaise. Je me suis dit, du coup, comme elle s'allie avec elle, ça a peut-être augmenté la méfiance aussi des villageois.
Oui, mais il la consigne est allée au vice considère qu'en fin de compte, de toute façon, maintenant, elle y est.
Oui, elle est installée maintenant. Oui, elle est installée.
Pour une raison. Mmh. Bon, par contre, l'autre, elle est gênante parce qu'elle est au cœur même dans la maison. Mmh. C'est son produit de chance.
Ben oui.
Mmh. Et donc, c'est elle qu'il faut éliminer, en fin de compte.
Oui. Alors, comment vous est venu, comment construisez-vous vos histoires, vos intrigues, et notamment celle-ci, comment est venue l'idée? Alors, vous êtes inspiré de personnages, 2 en 1, 3 en 2, votre fils qui fait sa thèse, donc voilà, c'est devenu Laura Farge. Comment se déroule votre travail? Moi, ça m'intéresse.
Alors, mon travail se déroule d'abord après écrivant un synopsis, hein, tout simplement,
oui.
Ce que j'appelle mon chapitral,
oui.
C'est-à-dire une dizaine de lignes que je déroule ensuite en dizaine de paragraphes, chaque paragraphe correspondant à peu près à un chapitre,
oui.
et donc j'ai ainsi une toile, trame générale que je m'efforce de suivre. Alors, en général, oui, des fois je prends une liberté, ça arrive. Et
oui.
puis les personnages que je greffe dessus, qui sont souvent le fruit de mon observation, ce que j'ai
oui.
vu à l'extérieur, parfois de la réunion de 2 ou 3 personnes, et puis on essaie de monter la mayonnaise, en fin de compte,
mm-hmm.
avec de suspense, et puis des détails qui font la réalité de la chose, et bon, pour certains détails, j'ai dû d'ailleurs recourir au service de spécialistes,
oui,
parce
oui.
que moi je suis professeur d'histoire de mon métier,
oui.
je ne suis pas licencié en criminologie,
mm-hmm.
hein, et donc je n'ai pas les compétences nécessaires, donc
mm-hmm.
je m'adjoigne mm-hmm. des compétences de spécialistes.
Mm-hmm. Donc en fait, vous vous faites aider pour les recherches de,
oui,
de gens du métier,
pour les recherches,
voilà.
Là, toute mm-hmm. la partie judiciaire, notamment, mm-hmm. a été relue
ouais.
par un de mes camarades qui est colonel de gendarmerie et spécialiste de l'identification criminelle.
D'accord.
Pour que ça soit colle vraiment à la réalité.
D'accord. Donc c'est important. Donc, bien spécifier que finalement, les détails sont proches de la réalité,
voilà.
parce qu'il y a beaucoup
de
détails.
C'est le détail qui fait la réalité de la chose.
Oui, oui. Oui, oui. Il y a beaucoup.
Qui a fait le relief.
Il y a beaucoup de détails. Donc, vous avez allié votre amour de l'histoire avec votre souci du détail judiciaire, puis-je dire. Alors, j'ai envie aussi, je vous l'ai dit hors antenne, de parler de votre précédent roman, parce que moi je l'ai beaucoup aimé aussi, et je sais que Georges Patrick Glaise est très apprécié. C'est les pierres aussi ont une histoire qui est parue il y a un an maintenant,
oui.
à peu près un an. Vous pouvez nous en dire 2 mots pour mettre l'eau à la bouche
de... Alors, même les pierres ont une histoire, c'est un roman très différent.
Oui, oui.
Celui-là.
Oui.
Ce n'est pas du tout un polar.
Non.
C'est une saga.
Oui.
C'est la saga d'une famille de hobereaux, de notables, qui sont de la Basse-Ariège, je dirais, pays des coteaux,
mmh.
Entre 1900 et 1970.
Tout à fait. Mmh.
Comment une famille de hobereaux qui sont plutôt collémentés, qui sont fiers de leur race et de leur sang,
mmh.
et qui dominent en fin de compte leurs paysans, vont évoluer au fil des ans, parce qu'il y a les 2 guerres mondiales qui arrivent,
oui.
Parce que les rapports humains changent, la société n'est plus la même, et comment ils vont se être en fin de compte les uns par rapport aux autres. Alors ce sont des gens qui sont ballottés par l'histoire,
oui.
c'est-à-dire qu'ils subissent le cours de l'histoire,
mm-hmm.
La grande comme la petite, hein, et ça fait évoluer dans leur façon d'être.
Mm-hmm. Mais c'est le propre finalement de beaucoup de familles sur un siècle quasiment.
C'est le propre de beaucoup de familles sur un siècle. Alors je suis parti dans aussi de détails qui sont réels.
Oui.
Par exemple, quand je décris le mariage en 1900,
oui.
c'est le mariage de mes grands-parents.
Ah oui. Oui, oui.
J'avais des documents authentiques de l'époque, beaucoup
mm-hmm.
de photos. Le fait que ma mère m'avait beaucoup raconté, ma grand-mère aussi.
Oui.
Donc j'ai pu reconstituer vraiment
mm-hmm.
comment c'était, et avec l'authenticité des lieux est parfaitement exact.
Mm. Quand vous rencontrez vos compatriotes ariégeois, et je suis sûre que vous êtes beaucoup lu dans la région, j'en suis certaine, comment vous parle-t-il de vos livres? Ils disent, oh, ben, je connaissais un tel ou la région. Comment vous en parle-t-il?
Alors, je cherche des aficionados, comme on dit. Hein, bon, des gens qui me suivent pas, qui sont sur
oui.
tous les bouquins, qui viennent pour le prochain bouquin.
Oui.
Bon, ça, c'est le socle du lectorat, comme
oui.
on l'appelle.
Oui.
Et puis, il y a ceux qui découvrent. Bon.
Mm.
Il y a certains qui découvrent encore la route. Et il y a ceux qui me suivent pas. Alors, ceux-là, des fois, ils prennent le bouquin et ils vont sur le terrain voir si ce que j'ai raconté,
ah,
c'est
oui.
bien vrai.
Ah, c'est bien, ça.
Ils ont cette démarche d'authenticité.
Mm-hmm.
Et donc, moi, je travaille au quotidien, un peu comme un journaliste, c'est-à-dire que je vais voir sur place, je vais prendre beaucoup de photos,
mm-hmm.
je cherche tout ce qui pourrait authentifier, en fin de compte, le lieu où se passe mon action.
Mm-hmm.
Parce que je sais qu'ils vont aller vérifier.
Mm-hmm. Mais ce qui est très bien fait dans le livre dont on parle aujourd'hui, La montagne des autres, avec Laura Farge, toute son histoire, moi j'ai eu l'impression vraiment d'une véritable enquête policière, parce que c'est quand même, vous l'avez dit, vous vous êtes fait aider, mais c'est quand même minutieux, c'est détaillé, et on s'y laisse prendre. C'est-à-dire que quand il fallait poser le livre, je vous avoue, c'était un peu compliqué, j'avais qu'une hâte, c'était de le reprendre pour savoir ce qui se passait. Donc ça, c'est très bien.
Mais c'est une enquête policière d'ailleurs. Au début, la couverture qu'on avait fait au début, n'était pas du tout celle que vous avez.
D'accord.
Une couverture un peu dans les bleus, un peu comme celle qu'on fait pour Bernard Minier.
D'accord, je vois très bien.
Un peu dans ce genre-là.
Oui.
Une couverture plus polaire. Et puis finalement, autour de la discussion avec mon éditeur, on est revenu sur une couverture qui fasse un peu plus terroir, mais il est à cheval entre les deux. Le bouquin est complètement à cheval entre les deux.
Bernard Minier, que nous avons l'habitude de recevoir ici à Délivrez-vous, ses deux ailes, une fois par an, quand il sort ses livres. Voilà, voyez. Voilà, oui, c'est un grand auteur de thriller et de polar aussi. Est-ce que ça vous arrive aussi de lire d'autres thrillers, d'autres polars ou d'autres livres d'autres régions qui peuvent vous inspirer, qui peuvent vous emmener
D'abord, je le dis en principe en général, les romans de mes petits camarades chez Calman Lévy,
bien sûr.
J'essaie de lire à peu près dans l'ordre, sans trop prendre de retard, parce que parfois, les lectures s'accumulent. Je lis aussi quelques polars, ça m'arrive de lire quelques polars. Alors, je lis des polars, des fois du Limousin, de mon camarade Franck Tinoy, par exemple.
Ah oui, très bien, oui.
Voilà, je lis aussi des polars du Sud, comme le dernier, par exemple, que je suis sur la table de travail, c'est un livre de Pierre-Jean Brassac, qui s'appelle sur Mourir à Bayonne, qui est un auteur ariégeois.
Ouais.
Et voilà, donc je lis quelques polars de temps en temps, au coup par coup. Je lis beaucoup de bouquins d'histoire, confesse.
J'imagine.
Je confesse que je lis beaucoup de bouquins d'histoire. Et c'est vrai que c'est plus de la moitié de mes lectures. Des biographies, notamment.
Est-ce que vous avez déjà dans votre tiroir ou sous votre plume ou sous l'ordi la prochaine histoire?
Oui, elle a déjà commencé. Alors, la prochaine histoire a déjà commencé. J'ai commencé au mois d'avril.
Oui.
J'en ai fait environ un petit quart.
Bon, c'est pas mal.
Un petit quart, c'est pas mal. Mais c'est pas beaucoup, mais c'est pas mal. Parce que je travaille surtout en hiver, en fait mauvais. Vous savez, quand le mauvais temps est là, j'ai plus facilité à rester devant mon ordinateur que quand il fait beau, ou la tentation de les promener, faire une balade, une randonnée est grande. Voilà. Et donc, pour l'instant, dans les temps, mon timing annuel, ça va, j'ai pas de problème. Alors, le prochain roman se passe dans le monde de la forêt. Dans le front forestier. Et pour l'instant, il a pour titre, c'est le titre dans lequel il est parti chez l'éditeur. Je ne pourrais pas tout dire que c'est le titre qui soit resté in fine au fin.
Bien sûr.
Ça s'appelle Coupe rase.
D'accord.
Coupe rase, c'est l'histoire de bois qui ont été coupés de manière clandestine.
Ah.
Il y a tout un mystère dessus. C'est un roman qui est un roman policier également.
D'accord. Donc on va rester.
Il sera dans cette lignée-là.
On va rester bien sûr dans l'Ariège, dans nos belles montagnes.
Alors je ne sais pas encore si je laisse dans l'Ariège, parce qu'il s'appuie sur des faits réels qui peuvent être éventuellement peut-être délicats à rapporter.
D'accord.
Donc il est possible que je le délocalise sur la Haute-Corrèze.
Ah bon, c'est très joli là, la Haute-Corrèze aussi.
C'est très joli.
Il y a des villages.
Ça rappelle beaucoup les forêts ariégeoises.
Oui.
Grandes forêts, sapins, etc. La forêt de Bénestat, c'est un peu le même genre. Hein, bon. Donc ça ne posera pas trop de problèmes au niveau de la paysage description.
Voilà, tout à fait.
Oui. Et les gens ont globalement les mêmes mentalités.
Oui. Le titre, là, La montagne des autres, j'en reviens à ça, mais alors je me suis dit, voyons voir, le titre, La montagne des autres, c'est pas parce que cette montagne, ils défendent leurs secrets, qu'elle leur appartient, c'est ça.
Ils considèrent qu'elle leur appartient, c'est la leur, c'est des étrangers, c'est, vous savez, les Toulousains, on les appelle les oriforts. Hein.
Oui.
C'est tout dire. Et donc, si vous voulez, sur cette montagne, ils sont furieusement attachés et ils ne veulent voir personne dessus.
Ouais.
Ils sont, eux, depuis des générations, ils sont bien comme ça. Les autres veulent rester dehors.
D'où la montagne.
On dit en patois, on dit déforo. Déforo, ça veut dire dehors.
D'accord, déforo. Je parle un peu patois riégeois, mais il m'en manque. Hein. Ma grand-mère m'en avait dit certains mots, mais il m'en manque quand même. En tout cas, c'est un livre que moi j'ai beaucoup apprécié, et puis j'aime beaucoup votre écriture, votre façon de décrire les personnages qui est toujours pointue, et puis c'est les paysages, on s'y croit, on entend le bruit des forêts, on entend l'accent des gens, le bruit des pas sur les cailloux, bref tout ce qui fait la vie dans ces montagnes, dans ces petits hameaux isolés. Georges Patrick Glaise, audition Calman Lévy, La montagne des autres, ça a été un vrai bonheur de vous recevoir.
Merci beaucoup.
Et puis je rappelle également le roman l'année dernière qui est sorti, qui est toujours d'actualité de toute façon. Les pierres aussi ont une histoire, toujours chez Calman Lévy. Je vous dis à une prochaine fois.
Merci beaucoup.
Sachez que vous êtes un éternel invité à ce micro, Georges Patrick Glaise.
Merci.
Merci. Au revoir. À bientôt, au revoir. Quant à nous, nous nous retrouvons une prochaine fois pour une autre émission pour ces deux ailes, pour Délivrez-vous. À très bientôt, au revoir.